Variation.
Variation.
Poésie conjuguée. Poésie politique conjuguée. La poésie conjuguée.
Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche. Du politique qu'on éclabousse.
Du politique qu'on éclabousse. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.
Décision, cour d'appel de Paris, 4 juillet 1988. Lieu interdit, selon l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 7 mars 1989, les départements de
Paris, 75,
Hauts-de-Seine, 92,
Seine-Saint-Denis, 93,
Val-de-Marne, 94,
Essonne, 91,
Yvelines, 78,
Val-d'Oise, 95,
Seine-et-Marne, 77,
Nord, 59,
Aisne, 02,
Ardennes, 08,
Meuse, 55,
Meurthe-et-Moselle, 54, Moselle, 57,
Varin, 67, Haut-Rhin, 68,
Territoire de Belfort, 90,
25,
Jura,
1, 01,
39,
Haute-Savoie,
74,
Savoie,
0, fin de l'interdiction de séjour à compter du 18 mai 2017. Arrêt du 28 avril 2011 ayant confirmé le jugement du TAP,
Tribunal d'application des peines,
en date du 16 février 2011, qui a dit que Monsieur Rouillant était autorisé à paraître dans le département des Bouches-du-Rhône.
Colon.
Détenu.
Prisonnier.
Incarcéré.
Pénitent.
Population
carcérale.
Récalcitrant.
Récidiviste.
Prisonnier.
Condamné.
Bagnard.
Prisonnier.
Incarcéré.
Pénitent.
Condamné,
bagnard,
forçat,
prisonnier
politique, corrigé,
irrécupérable,
relégué.
J'ai la haine de ce temps qui est volé aux gens qui s'y trouvent, quoi.
Trum, trum, tum, tum.
« 213 chemin du Morgiou, lundi 2 avril 2012, 14h30. »«
Je me présente au planton des Baumettes. Il exige la convocation judiciaire. Je la dépose, pliée en quatre, dans le tiroir mécanique de l'échauguette, accompagnée de ma carte d'identité, et j'attends. »«
J'attends. La vitre blindée me renvoie l'image d'un homme de 60 berges, et cet homme ressemble à tant et tant de vieux taulards, crâne rasé, visage fermé, épaules galbées par les heures passées dans les salles de musculation. Tatouage bleu, cicatrices laides et une indicible étrangeté dans l'œil.
60 piges et 28 passées derrière les murs. La moitié d'une vie. J'attends. J'ai appris à attendre.
Et bien que je lui tourne le dos, la prison, si proche, m'envahit de ses rumeurs. Sa présence vibre au plus profond de ma viande.
Ceux qui ne savent pas,
ceux qui n'y ont jamais été,
ou si peu de temps que cela ne compte pas,
tout cela
restreignent la prison à quatre murs.
À l'enfermement,
au mirador,
au verrou,
à la bestialité des matons,
à l'idiotie administrative, comme si la torture se résumait à l'impact des coups. La prison est d'abord un supplice intime.
La prison s'insinue sous la peau, elle circule tel un poison dans les vaisseaux, se développe en métastase, envahit jusqu'à l'ultime cellule du corps pour en éliminer toute trace du dehors.
On lui appartient de l'intérieur, bien avant de se soumettre au poids du fer et du béton, aux menaces de mort, aux fusils rugueurs, 15 coups dans le chargeur.
Elle est une odeur.
Une odeur.
Les effluves de la pourriture.
Pourriture.
Du moisi et du renfermé. Le mélange des désinfectants citron vert et pain des Landes, les poudres tueuses de cafards, la morora, les émanations Sodexo de la nourriture prédigérée et transvasée directement du chariot aux chiottes, la crasse séculaire, le crachat du tubard, le vomi du junkie.
Elle est un bruit. Les cris et aussi le silence à certaines heures de la nuit. Les gémissements dans le quartier d'isolement et dans les cachots, le claquement métallique des verrous, le cliquetis des clés brinque-ballées à la ceinture du brigadier.
Les pas perdus, le passage de la ronde et les baskets couinant sur le carrelage humide du grand couloir. Et puis l'arrivée tardive des arrivants, les départs tôt des partants, les haut-parleurs.
Les interphones,
les hygiaphones,
les ordres répétés jusqu'à la nausée.
Deuxième et troisième étage, remontée de promenade.
Premier, deuxième, troisième, quatrième, envoyez les parloirs. Préparez-vous à recevoir le repas, en tenue correcte.
La prison est au-delà du mur, mais je sens sa présence. Non pas avec mes oreilles, ni mes narines, c'est-à-dire avec mes sens humains. Non, il s'agit de bien autre chose, comme si les cellules me constituant résonnaient aux cellules de son corps monstrueux. Comme si son architecture avait modifié ma propre architecture biologique. Si ma chair était du même béton, du même fer, du même fil barbelé, et mon sang comme ces fils de gars qui vont et viennent, et montent et descendent.
L'heure de la sieste se termine. Les yo-yos circulent déjà. Les premiers groupes de prisonniers descendent en promenade. Trois murs, une grille. Et ils tournent, à quelques mètres de moi. Je ne les vois pas, mais je pourrais les décrire comme s'ils marchaient devant moi. Je pourrais entrer dans leur conversation comme s'ils m'adressaient la parole.
Ouais, le proc machin et la mère Frangelin.
T'as la dette des assiettes?
Ils me tiennent avec l'article 247.
Et pour toi, tu me dégotes une barrette?
Dieu de mon renvoi, il est mazette.
Et la loi sur la récidive, et les peines planchées, Kézako.
Je te refile un portable, cadeau.
À Félix Piat, je te dégote une calache à 250 euros.
Wouah!
Ces mots de la prison qui tournent avec les heures, les jours, les mois et les années, un dialecte de proscrit pour demi-sel et affranchi,
une langue maternelle qui se partage avec le mandat de dépôt,
sans traduction,
sauf pour les enfants naturels et les poteaux,
les mots de la souffrance,
jusqu'à l'écho sur la pierre blanche,
jusqu'à l'écho sur la pierre blanche,
un brouhaha oppressant. Certains jours de soleil, pareil au vombrissement assourdissant d'un essaim.
Un essaim d'hommes, des hommes pris au piège, comme l'abeille se cogne à la vitre. Et ils tournent en rond,
ils tournent en rond, ils tournent en rond le soir, ils tournent en rond le matin, ils tournent jusqu'à l'épuisement. Et cet essaim ne fait pas du bon miel.
Je le sais.
Je le sais.
Ils sont là.
Ils sont là.
Ils reviendront.
Ils reviendront.
Ils sortiront plus féroces. Ils sont là encore. Ils y passeront une vie, deux vies,
toute la vie. Derrière les murs.
Derrière le mur.
Derrière le mur.
Derrière le mur.
Derrière.
Kamel. Jimmy. Jamel. Denis. Amou. Kamel. Sergio.
Le mot prison, en français, vient du latin prensionem, qui marque l'action d'arrêter. La prison, c'est à la fois la prise des corps, leur emprisonnement, puis l'endroit où on les enferme. On assiste à la multiplication des prisons au XIXe siècle et au quasi-abandon de la diversité des autres punitions. Les corps détenus sont alors investis différemment par les rapports de pouvoir. Ils deviennent avant tout des objets de connaissance. Dominer efficacement, atteindre les individus dans leurs gestes, leurs attitudes, leurs discours, c'est dans le même mouvement développer des connaissances rigoureuses permettant le dressage. La psychologie, la psychiatrie, la criminologie, la médecine seront complices de ce contrôle. Le pouvoir, loin d'empêcher le savoir, le produit. Accumuler sur chacun une archive, noter les comportements, questionner. Toutes ces petites techniques de notation permettent l'émergence des sciences de l'homme. S'ouvre au XIXe siècle l'époque des disciplines, aux deux sens du terme. Sorte de fouet, fait de cordelettes ou de petites chaînes utilisées pour se mortifier, se flageller, mais aussi constitution d'un ensemble de savoirs. Le XIXe siècle voit l'expansion des institutions disciplinaires, armées, hôpitaux, écoles, asiles, ateliers. Elles mettent au point des procédures pour contrôler, mesurer, dresser et surveiller les individus afin de les rendre fondamentalement dociles et utiles. De la même façon, établir une peine juste, individuelle, rationnelle, qui prend en compte la personnalité du condamné en se prononçant scientifiquement sur son degré de responsabilité ou de folie. Au moment des faits, demande l'exercice de savoirs nouveaux, capables d'apprécier la normalité et son contraire. La criminologie, la psychiatrie, la psychologie sont alors convoquées pour répondre à ces exigences et moduler les peines dans les cours de justice. L'institution carcérale se dote de spécialistes, éducateurs, enseignants, surveillants, aumôniers, médecins, qui cherchent à étudier l'âme du condamné. Les corps enfermés ne sont plus, selon la loi, suppliciés, mais surveillés, observés, pour mieux assujettir les esprits. Le détenu est décrit, jaugé, mesuré, comparé, et l'institution cherche à redresser son âme, qui doit devenir la prison du corps. On le sait, Foucault accorde au texte de Jeremy Bentham, Panopticon Works, en 1791, une grande importance conceptuelle. Cette architecture utopique, le panoptique, est donc un dispositif qui permet à un seul de tout voir. Le geôlier, installé dans une tour centrale, surveille les cellules distribuées autour de lui en anneaux, sans être vu. Cette cage savante et cruelle, sans extériorité, devient l'emblème de cette nouvelle forme de pouvoir qui se met en place au XIXe siècle dans les institutions disciplinaires, celui de la surveillance généralisée des corps et de leurs connaissances approfondies. Le panoptique devient la figure architecturale de cette technique de pouvoir qui trie les corps, les isole et par un effet de transparence et de dissymétrie des regards, les discipline. Pour Foucault, les institutions, c'est-à-dire l'hôpital, la manufacture, l'école, la prison, deviennent d'immenses machines à connaître, surveiller et modeler les individus. La prison panoptique, ou plus largement la société disciplinaire, jette son filet sur l'ensemble des acteurs sociaux, surtout lorsque ceux-ci présentent une anormalité quelconque, le fou, le délinquant, le criminel. Il convient de trier le bon grain de l'ivraie, d'exclure certains, pour protéger les autres.
I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay.
And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
J'ai hâte de quitter cette maison d'arrêt, notamment pour échapper à cette paranoïa. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Je veux dire, à part poursuivre ma petite route, laisser derrière moi ma région natale, goûter au climat de là-haut et grandir tranquillement derrière les barreaux. C'est déplorable, il faut le dire. Il pourrait bien me laisser là, seul, sur le trottoir d'une avenue noire de monde, et m'ordonner d'attendre qu'il revienne me chercher, et alors j'attendrai. Ils n'ont pas besoin de menottes ni d'écrous. D'ailleurs, ils le savent parfaitement. Je me souviens d'un retour d'extraction médicale. Je croise le chef qui me demande où j'étais passé. Déplorable, je vous dis. L'envie ne manque pas pourtant. C'est vrai, je ne vis que pour sortir d'ici, mais pas tant pour être à l'extérieur que pour être auprès de ma famille. Et ma famille ne me pardonnerait jamais d'avoir tenté de me faire la malle, encore moins d'avoir réussi. Du coup, je n'ai plus qu'à m'amuser des efforts qu'ils fournissent pour m'arnacher comme une bête, qu'ils promènent dans les couloirs des hôpitaux lors des extractions médicales. Entravée aux mains et aux pieds, je m'applique à dire bonjour à tous ceux que je croise. Souvent on me dévisage, parfois on me sourit. Je me rappelle d'une de ces fois-là. J'étais allongée sur la table d'opération, nue sous les draps et fraîchement douchée à la bétadine. L'anesthésie était locale, je ne sentais plus mon bras gauche. Mon autre bras était branché et perfusé. Je fermais les yeux. Après 8 mois passés à me traîner une patte cassée, quelqu'un allait enfin me réparer à raison de 3 broches et autant de cicatrices. Quelques frissons me parcoururent. J'avais froid. Un infirmier s'en alla chercher une sorte de petit chauffage qu'il glissa entre mes pieds. En soulevant le drap, il entendit un cliquetis et vit les entraves. Il m'observa, je l'observais. Il replaça le drap et tourna les talons. « Eh oui, abruti, à quoi bon respecter les règles d'hygiène si, sur le billard, on me laisse ces nids à bactéries aux pieds ?» Irrité par la gêne du gars, j'eus le nez qui me démangea. J'essayais de me le gratter, mais je n'y parvins pas. Quelque chose bloquait mon bras. Tu m'étonnes. Une matonne en charlotte s'était foutue dans les fils de la perfusion. Quelle gueule il se paie. 1 mois plus tard, je retournais à l'hôpital pour me faire retirer les broches. Ce coup-ci, pas de charlotte, pas de blouse. On m'assoit sur un vulgaire lit de consultation, on me pose la main sur un chariot à roulettes, et après quelques piqûres d'anesthésie, on m'ouvre la main. Comme ça, là. J'étais ébahie par le spectacle. Peut-être pas autant que les 3 matons. Serrés les uns contre les autres, ils observaient en silence le ballet des instruments chirurgicaux. Et voilà que le boucher se mit à tirer comme un bourrin sur les broches pour les sortir de là. Plus il tirait, et plus les visages des matons se décomposaient. Au tintement des pinces qui s'attaquaient à ma chair, je rajoutais la douce mélodie des entraves en cognant mes pieds l'un contre l'autre. Je n'avais jamais vu ça. Personne ne m'avait averti. Une chance que je ne craigne ni le sang ni la vue de ma propre main charcutée. Ils m'ont rentré dans ma cellule. Comme à mon habitude, j'ai raconté mes balades aux filles, en riant, à renfort de mimes et de caricatures. Tout cela n'était finalement qu'anecdote risible. Je ne suis pas entravée dans les couloirs de la mort. Je ne suis pas entravée à chacun de mes déplacements comme les prisonniers des QHS. Je ne suis pas sur le point de mettre mon enfant au monde, entravée. C'est à eux que je pense. C'est par solidarité pour eux que je me dois de rire de ce qui m'arrive. Par cette chaleur étouffante, je cesse d'écrire. Mes meilleures pensées. Alexia.
Maison d'arrêt pour femmes de Nice, le 6 juillet 2017. Au Moyen-Âge, ils jetaient des gens comme moi dans une oubliette. Aujourd'hui se passe la même chose, sauf que tu ne meurs plus de faim et de soif. Je me sens comme dans un labo où ils veulent tester jusqu'à où ils peuvent aller. Ashraf Sekaki, novembre 2008. Je pense à toi tout le temps. J'ai beaucoup pensé aux femmes ces derniers temps. Est-ce de la sentimentalité ? Y a-t-il là quelque chose de mal ? Je ne crois pas. Le sexe ne m'a jamais tellement tracassé. Je fais mes exercices et des centaines de katas, je m'occupe. Ces 10 années ont en réalité passé assez vite. Elles m'ont détruit en tant que personne, qu'être humain, mais ça a été une mort rapide. Il me semble que cela a duré 10 jours plutôt que 10 ans. Aimerais-tu connaître un sous-homme? J'espère que tu as du temps à perdre. Je ne suis pas quelqu'un de très réjouissant. Je te l'avoue d'emblée, j'ai été forcé d'adopter tout un ensemble de réactions, de réflexes, d'attitudes qui m'ont rendu plus proche du chat que de quoi que ce soit d'autre. Un grand chat noir. En dépit de tout cela, je ne suis pas devenu égoïste. Du moins, je ne le crois pas. Mais c'est quand même à moi que je pense lorsque je parle de nos futurs rapports. Tu seras celle qui donne et moi celui qui reçoit. Ils cassent du nègre à l'étage d'en dessous, toute la journée, tous les jours. Ils cassent du nègre et du protestataire avec leur discours. Il y a un détenu qui a dit aujourd'hui à un porc qu'il serait terriblement déçu si avant la fin de sa journée de travail, ce soir, le porc n'avait pas descendu quelques nègres. Le porc a trouvé cela très drôle. Ils se sont mis à parler politique pendant 20 minutes, le porc et le prisonnier qui l'encourageaient. Il y a quelque chose de très primitif chez ces gens, quelque chose d'effrayant. Pendant tout le temps que j'ai passé ici, à l'étage des sécurités maximum, aucun frère n'a jamais adressé la parole à un de ces types. Nous ne parlons jamais d'eux d'une cellule à l'autre. Chaque frère qui est ici respecte les consignes du parti, et jamais nous n'employons de termes racistes. Tous ces frères sont magnifiques. Ils ont franchi la ligne qui interdit tout retour en arrière. Tous sont engagés à fond. Ce sont les plus désespérés et les plus indomptables d'entre nous. Je les aime. Ce sont des hommes qui ne se contentent pas de parler. Ils viennent des différentes prisons de l'État, ils sont ici pour purger des peines à vie ou pour être exécutés, selon ce qui paraît le plus avantageux. Ce frère, Edward, qui a été exécuté en janvier, avait dit à son avocat qu'il ne sortirait pas de prison vivant. Il était à l'époque de cette déclaration, à l'étage des peines maximum, dans le couloir de la mort, à Soledad, Californie. Il avait 21 ans. Nous avons pris la ferme décision de ne jamais parler avec les autres. Mais ils ne se lassent pas, Angela. Ce sont des gens qui sont incapables de changer d'attitude. Ce qui est inné en eux le restera, du berceau au tombeau. Certaines personnes ne peuvent rien apprendre. Toi qui es historienne, tu sais depuis combien de temps et avec quelle ferveur nous les avons suppliés d'éliminer le meurtre de leur système, de leur économie, de leur propagande. Toi qui es une observatrice intelligente, tu as vu comment nos prières ont été accueillies. Plusieurs générations se sont épuisées, des océans de sang ont été versés à essayer de civiliser ces éléments irréductibles. Rien ne pourrait être accompli avec les procédés que nous avons utilisés par le passé. La dialectique, la compréhension, l'amour, la résistance passive ne peuvent rien contre ces porcs activistes maniaques et sanguinaires. La situation de l'homme noir n'a fait qu'empirer, et empirer encore. Il nous appartient d'être l'avant-garde, le catalyseur de tout changement important. Si tu rencontres Yvonne, dis-lui que je l'aime aussi et tout autant. Dis-lui que je veux la voir de près. Dis-lui que je n'ai pas une âme de propriétaire, que je ne suis ni exigeant ni indifférent, et que je ne m'en fais pas tant que ma, notre vie et notre liberté ne sont pas en jeu. Mais fais-lui comprendre que je voudrais la tenir contre moi, malgré mes chaînes, et glisser ma langue dans le petit espace entre ses dents de devant, ce qui l'obligerait à sourire. Pouvoir au peuple. Georges.
Je sais pas quoi faire si je dormais, mais tout est dur, j'ai faim. Y'avait pas assez à manger, si seulement y'avait du papier et des crayons. Où suis-je et pourquoi?
T'as voulu l'enfermer, lui mettre des chaînes même, lui mettre un boulet, loué sur un mur même. T'es juste en train de jeter une bûche dans le feu de sa haine, à l'usine des condamnations. Ça enchaîne, ouais, c'est une menace de mort à tous les juges, à tous les matons qui se croient au-dessus mais qui sont des petits pions. Ceux qui prennent leur pied à voir des gens en zozon, ceux-là je les vise et j'appuie sur la pression.
Je sais que c'est dur mais je vous rassure, ils n'enfermeront pas vos cœurs durs, vos âmes sont libres et peuvent quitter vos corps le temps d'une nuit.
Vous êtes condamné à demander la permission pour tout. Vous êtes condamné à ne plus disposer de votre temps, de votre avenir, de vos projets. En juillet 2016, nous sommes 69 675 personnes incarcérées, environ 2650 femmes, 315 adolescents de moins de 18 ans. Vous êtes condamné à vous tourmenter incessamment pour vos proches, sachant que vous n'apprendrez jamais que ce qu'on voudra bien vous dire. Vous êtes condamné à ne plus faire l'amour et à être séparé de l'être que vous aimez. De 2006 à 2009, 377 détenus se sont suicidés. Depuis, on ne sait plus vraiment. On sait juste que le taux de suicide est 7 fois plus élevé qu'en liberté. Vous êtes condamné à ne plus avoir aucun contrôle sur votre corps. Vous êtes condamné à prendre des cachets jusqu'à ce qu'on obtienne de vous l'abrutissement voulu. Vous êtes condamné à être coupé de la nature et votre ciel sera tendu de gros filins. Vu les états d'urgence, le nombre de personnes incarcérées va exploser, va exploser, va exploser, va exploser, va exploser. J'ai autre chose à foutre qu'à emmerder ces cons. Marcher sur un chemin de terre. Préparer l'apéro. Accompagner la petite de Rémi au collège. Prendre un bain d'eau chaude. Prendre un bain de soleil. Pisser dans l'herbe. Aller sur les places publiques et refaire le monde avec les potes. Traire une brebis. Faire du fromage. Cueillir des fleurs. Faire du vélo. Entendre un patron me demander... Ça fait longtemps que t'es dans le métier? T'as travaillé avec qui avant? Tu as ton permis de conduire? Tu as ton propre chien? Il a quel âge? T'as pas d'enfant, hein, parce que la cabane, elle est petite? Non, je n'ai pas d'enfant. Vous êtes condamné à vivre sans beauté une existence rigoureusement monotone. Vous êtes condamné à vivre votre désastre sans la consolation de personne. Faire des crêpes avec ma mère. Boire un verre de gnôle avec mon père, ou retaper le camion, jouer avec mon chien, caresser un homme, marcher dans les pâturages, dormir allongé toute une nuit près d'un feu, sentir l'odeur du troupeau, entendre bêler mes brebis, pisser dans l'herbe, pisser dans l'herbe. Pisser dans l'herbe, pisser dans l'herbe, pisser dans l'herbe.
Les jours s'étirent interminablement dans la pénombre de la cellule. La monotonie déprimante du gong rythme mon existence. Mes pensées ont pris une autre tournure depuis que j'ai reçu ce message. Bien que mon mystérieux correspondant ne se soit plus manifesté, l'idée de l'évasion m'a redonné de l'espoir. Je recommence à vouloir vivre, un peu plus, chaque jour. Je pense de moins en moins souvent au suicide. Cette éventualité me remplit maintenant d'effroi. Il faut d'abord épuiser toutes les possibilités d'évasion. C'est ainsi que je rassure ma conscience troublée. Je n'ai assurément pas peur de mourir, lorsque le moment sera venu, mais toute précipitation serait extrêmement imprudente. En tant que révolutionnaire, j'ai le devoir de saisir toute occasion de propagande. L'évasion m'offrirait maintes possibilités de servir la cause. Peut-être mon ami inconnu tiendra-t-il parole. Il est sans doute occupé à perfectionner ses plans, ou alors il ne peut se signaler à nouveau pour des raisons de sécurité. Si mes camarades pouvaient m'aider, une évasion serait réalisable. Mais la fille et Feida n'envisageront jamais cette possibilité. Ils s'abstiennent sans doute d'écrire parce qu'ils s'attendent d'un moment à l'autre à la nouvelle de mon suicide. Comme la fille doit être bouleversée. Pourtant, elle aurait dû écrire. Il y a maintenant 4 jours que l'on m'a conduit au pénitencier. Chaque jour, j'attends impatiemment la venue de l'aumônier qui distribue le courrier. Oh, le voilà. Son pas nerveux m'est devenu familier. Je suis suspendu à tous ses mouvements. Bruit de la porte, claqué sèchement, cliquetis de la serrure, trottinement sur le pont qui relie la rotonde supérieure et la section, puis sur la coursive. Ce bruit de pas solitaire dans le silence me fait penser à la traversée nocturne en toute hâte d'un cimetière hanté. L'aumônier s'arrête. Il compare le numéro sur le bloc de bois accroché à l'extérieur de la cellule avec celui de la lettre. Ah, quelqu'un s'est souvenu d'un ami en prison. Les pas continuent et se font de plus en plus faibles lorsqu'il passe en face. Il longe la rangée de cellules de l'autre côté, monte au dernier étage, redescend finalement jusqu'au rez-de-chaussée où je me trouve. Mon cœur bat plus fort. Il doit certainement y avoir une lettre pour moi. Il s'approche, s'arrête. Je ne le vois pas encore, mais je sais qu'il est en train de vérifier les numéros. La lettre est peut-être pour moi. J'espère que l'aumônier ne fera pas d'erreur. Section K, cellule 6, numéro A7. Un objet léger heurte le sol de la cellule voisine. Les petits pas rapides s'éloignent. Pas de courrier pour moi. Il me faudra attendre encore 24 heures avant de pouvoir recevoir une lettre. Mais peut-être que demain, l'ombre ne s'arrêtera toujours pas à ma porte.
La pensée que j'en ai pour 22 ans me rend fou. J'utiliserai n'importe quel moyen, aussi terrible soit-il, pour échapper à cet enfer, pour retrouver la liberté. La liberté, que ne m'offrirait-elle pas après cette expérience? J'aurai alors devant moi des possibilités extraordinaires d'activité révolutionnaire. Je choisirai la Russie. Si je pouvais informer nos amis les plus sûrs de nos plans, de mes plans concernant mon activité future en Russie, ce serait glorieux, glorieux, mais... C'est l'aumônier. Il a peut-être du courrier pour moi aujourd'hui.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne, mère d'à Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge, merde à Vauban.
Le 2 août 1898. Au lendemain de sa première condamnation, Émile est transféré du dépôt à la Petite Roquette. Certains renseignements issus de sa visite au service anthropométrique sont annotés sur sa fiche d'écrou. Quand il arrive dans cette prison, spécialement bâtie pour les mineurs, on lui attribue son premier numéro d'écrou, le 590. Situé entre la Bastille et son quartier de Charonne, le bâtiment de la Petite Roquette lui est familier du fait de sa situation géographique en ville, mais aussi par les mythes qui entourent cette prison. C'est notamment ici que des exécutions de peine capitale sont réalisées. Émile devait avoir écho de ces histoires et avait certainement déjà longé ces murs. Et pourtant, passer près des grands murs d'enceinte est bien différent que d'entrer à l'intérieur. Ce bâtiment, construit entre 1825 et 1832, se voulait être une prison modèle pour incarcérer les mineurs, c'est-à-dire les condamnés de moins de 21 ans, mais aussi pour enfermer les femmes, qui ne sont qu'une autre catégorie de mineurs, selon les législateurs. Cette expression de prison modèle, utilisée par tous les bâtisseurs de prisons au moment de leur ouverture, a un goût un peu particulier au début de ce siècle. En effet, le début du XXe siècle est un tournant dans l'histoire judiciaire et donc carcérale, du fait de l'évolution des peines du châtiment vers l'enfermement. C'est donc à ce moment-là que plusieurs intellectuels de l'enfermement réfléchissent et expérimentent. C'est le cas dans l'architecture même de la Petite Roquette, qui cherche à se rapprocher du panoptique. À la fin du XVIIIe siècle, Jeremy Bentham théorise ce modèle architectural de prison, où chaque détenu peut être à tout moment observé, sans qu'il puisse s'en rendre compte. L'idée est donc qu'à terme, l'individu se contrôle lui-même, tout le temps, en intégrant la surveillance permanente et l'autorité. Pour la première fois, Émile de Lagrange franchit la lourde porte de l'institution carcérale. Il est ensuite amené à travers les longs couloirs, la tête recouverte d'un drap noir. Fini le chaos de la ville, les bruits familiers du quartier de Charonne, les harangues des vendeurs, les chansons des gamins. Émile est plongé dans un monde de silence. Les seuls sons autorisés sont la voix des maîtres lisant depuis le couloir et d'une manière monocorde des leçons à l'intention des jeunes enfermés, les insultes des gardiens qui font hâter le pas et les claquements secs du mécanisme des serrures. On distingue également les bruits de coups, les plaintes et les pleurs. Le recours à la violence est fréquent. Les récalcitrants et les moins dégourdis se retrouvent régulièrement passés à tabac par les surveillants. Émile est désormais dans sa cellule individuelle. Lui qui est habitué à vivre à l'échelle de son quartier, des rues, il se retrouve cloîtré dans quelques mètres carrés avec seulement une petite fenêtre. Comme chacune des ouvertures de la Petite Roquette, celle-ci ne laisse voir que la chapelle intérieure de la prison, sans aucune vision au-delà de la prison, l'imposant mur d'enceinte barrant l'horizon. La tambouille à l'intérieur est répugnante et l'hygiène déplorable. Mais surtout, l'autorité règne par l'humiliation et les coups. Le régime carcéral qu'Émile a connu durant cette période est un peu particulier. Tout comme par son architecture, la petite roquette fut le terrain d'expérimentation de plusieurs écoles théoriques de l'enfermement. Ces dernières partaient du postulat que l'enfant délinquant devait être sorti de son environnement familial et des meutes juvéniles qui peuplaient les faubourgs à cette époque. L'enfant était considéré comme un être neutre et innocent. Il devenait délinquant. C'était par effet de contamination causée par son environnement peu recommandable. Ainsi, il fallait sortir l'enfant de son contexte familial et le placer alors sous un régime de patronage. La vision de l'enfance évoluait néanmoins et on commençait à assister à la participation d'adolescents aux insurrections qui marquèrent l'histoire de ce siècle, notamment dans les grandes villes. Il fallait donc aménager la peine en isolant complètement le jeune et en lui inculquant des valeurs de soumission à l'autorité, qu'elles soient étatiques, religieuses ou militaires. C'est ainsi qu'on pensa la petite roquette, avec un système d'encellulement individuel et un régime d'extrême sévérité. Comme seul échappatoire et horizon, l'enfant n'avait plus que l'Église, qu'il apercevait de sa cellule, comme seule relation sociale, le religieux, qu'il écoutait dans un amphithéâtre ou placé dans une des alvéoles. Il ne pouvait être en contact avec ses autres compagnons d'infortune. Les relations sociales étaient quasi inexistantes, se réduisant à la visite du curé et le contrôle des surveillants. La petite roquette servit à enfermer les jeunes parisiens condamnés à des petites peines, moins d'un an, et ceux en attente de leur procès ou de transfert jusqu'en 1935. À cette date, la prison pour mineurs ferme pour devenir un lieu d'enfermement pour femmes uniquement.
Bandits, voyous, voleurs, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, schnappant. Qu'est-ce que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, schnappants. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit: j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la maître des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis.
Je suis persuadée qu'il faut être psychopathe pour rechercher l'uniforme. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui se passe dans la tête de celui qui revêt volontairement un uniforme. Saviez-vous qu'il existe dans ces prisons une rivalité féroce entre le porc en uniforme et celui qui travaille en civil? Les porcs en uniforme se font appeler la garde, tandis que les autres sont ceux de l'intendance. C'est le rôle de l'uniforme de garder les hommes. Cela signifie qu'il fait le travail essentiel: fouiller, battre et tuer. L'individu en chemise blanche et cravate, en réalité une autre sorte d'uniforme, précise ce que nous allons manger, décide quel programme scolaire ou manuel de merde nous suivrons, et il précise à ces ridicules séances de thérapie, et il préside à ces ridicules séances de thérapie de groupe qui dégénèrent toujours en bagarre ou en concours de mouchardage. Et c'est lui aussi qui rédige les rapports pour la commission. Ces deux types de flics se disputent depuis l'arrivée sur le terrain des soi-disant conseillers. Bien entendu, ils étaient censés travailler ensemble contre les détenus, le but étant d'en briser le plus possible pour avoir à en tuer le moins possible, ce qui a toujours mauvaise presse auprès des représentants de l'administration pénitentiaire et de l'appareil politique qui les a mis en place. Mais nous les avons contrés en les montant les uns contre les autres. Si un uniforme nous refuse quelque chose, nous nous adressons au conseiller. Et s'il nous l'accorde, tant mieux.
Mais nous demandons systématiquement à l'uniforme, et de manière qu'il refuse, ce que le conseiller nous accorde à coup sûr. Le délire de pouvoir qu'ils semblent tous avoir a pour conséquence prévisible le chaos. Ces hommes qui veulent nous diriger, nous manipuler, nous détruire et qui sont en même temps incapables de s'entendre en quoi que ce soit. Vous voyez le tableau? Des crétins armés, des conflits de personnes. Les conflits de personnes sont innombrables. Flics contre détenus, flics contre flics, détenus contre détenus. En général fomentés par un flic ou causés par des conditions de vie inutilement dures. Il sera impossible d'en faire le compte, même avec un ordinateur, et même en ne comptant que les heurts qui se manifestent au grand jour en une heure de temps. Pour être sûr que vous compreniez ce que je dis, j'admettrai aussi que la plupart de ceux qui passent par ce genre d'établissement sont malades, d'une manière ou d'une autre. Ce sont des monstres, complètement détraqués, tordus, dignes rejetons du parent monstre. Ceux qui ne sont pas comme ça en entrant, le seront quand ils repartiront. Personne ne sort intact. On laisse derrière ces murs individualité et dignité. Aucun noir ne peut sortir d'ici, s'il a quelque histoire de violence dans son passé, tant qu'il ne voit pas, dans ses yeux, cette chose que personne ne peut simuler. La résignation, la défaite, elle doit se lire clairement sur son visage. Je l'ai vu, cette résignation, dans les yeux de certains noirs, dans la cour de Saint-Quentin, à Tracy, ici. Quand je suis entré dans la cour en 1962, mes frères étaient en rang sous la pluie, alors que la moitié de la cour était protégée par un toit. Les Mexicains et les Blancs étaient à l'abri. Ils réservaient de longs espaces pour des amis qui ne se montraient jamais. Mon premier jour ici, j'ai eu la vision du vieil esclave mouillé et tremblant sous la pluie, pendant que les autres sont à l'abri sous le toit. Les frères étaient surtout soucieux d'éviter les ennuis. Le port tire invariablement sur le noir quand une dispute éclate entre blancs et noirs. Et il semble que les noirs sont plus préoccupés d'obtenir des bons rapports en vue d'une conditionnelle que les blancs ou les bruns. Je ne comprends pas cela, car ce qui les attend dehors ne vaut guère mieux.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas. J'ai fait si pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, j'entre en cellule, des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin, 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rat. Le trouble est dans ma tête, et le maton de mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent, et le maton de mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader, le trouble est dans ma tête et le maton.
Première nuit, matelas pourri, lit superposé, carreaux cassés, les rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale, goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, de grillage et un barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent
et le maton de mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent
et le maton
de mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête
et le maton.
Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlan dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de paupières contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
It's been so strange.
Les deux policiers m'ont fait monter dans leur véhicule. Nous avons pris la direction de Marseille par l'autoroute. Les gendarmes suivaient. Quand on a plongé vers la Joliette et les ports, ils ont mis la sirène, sans doute pour m'impressionner. La circulation était fluide. Ils se sont garés dans la cour de l'évêché. L'un des deux policiers m'a dit « Vous allez passer par la fouille et les geôles. Ensuite, nous vous interrogerons. » Nous avons emprunté un escalier qui s'enfonçait sous terre. Une énorme grille électronique s'est ouverte et on m'a enlevé les menottes. Nous étions dans une cave, profondément enfouie sous les locaux de la police judiciaire. Des murs en béton, quelques ampoules au plafond. Les deux policiers en civil sont remontés à l'air libre. 10 uniformes m'entouraient. La grille a claqué en se refermant. Ils m'ont ordonné de me déshabiller complètement. J'ai déposé mon vêtement sur une banque. Le slip aussi, m'a dit un flic. J'étais aussi gêné qu'abasourdi. Je n'avais pas le choix. Montre, chaîne, lunettes, absolument tout. J'ai décroché pour la première fois de mon cou la petite chaîne en or de ma mère. Elle l'avait portée durant toute sa vie, moi depuis le jour de sa mort le 4 décembre à 11h du soir. De penser à ce souvenir de ma mère qu'il glissait négligemment dans un sachet en plastique, j'ai eu l'impression qu'elle mourrait une seconde fois. J'en ai presque oublié que j'étais nu comme un ver, au milieu de 10 uniformes, dont 2 étaient portés par des femmes. Je n'ai même pas essayé de dissimuler mon sexe derrière mes mains, il était entièrement rentré dans sa coquille. Comment me serais-je douté, 3 heures plus tôt, alors que je m'apprêtais à rencontrer des lycéens souriants, que je me retrouverais nu dans une cave hideuse sous la ville où j'avais grandi, nu au milieu du Moyen-Âge. Ils ont retourné chacune de mes poches, palpé ourlet, doublure, puis je me suis rhabillé. Les lacets de mes chaussures avaient disparu. J'ai demandé que l'on me rende au moins mes lunettes. C'était interdit, dangereux. Certains se tranchent les veines avec, a dit celui qui semblait être le chef. Mettez-le à la 11. Ils m'ont fait passer sous un portique anti-métal et m'ont conduit par le coude le long d'un couloir. C'était comme dans les prisons où j'allais depuis des années, une succession de cellules, mais là je n'avais pas mon cartable à la main et nous étions sous terre. Ils m'ont fait entrer dans un cachot et ont poussé de verrous. J'étais dans un réduit de 3 mètres carrés, mur et sol en béton, ni lucarne, ni cabinet, juste une épaisse planche scellée pour s'asseoir. La porte était en fer et en verre sécurite. Le gardien qui allait et venait dans le couloir pouvait voir dans chaque cage. Je me suis laissé tomber sur la planche et j'ai écouté ce que j'allais entendre pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Le cri effroyable des hommes et des femmes qui essayaient de défoncer les portes blindées à coups de poing, de pied. Certains devenaient fous, d'autres voulaient simplement qu'on les emmène au cabinet. Au bout d'un moment, ma porte s'est ouverte et les gardiens ont poussé un homme. Dès qu'ils ont renfermé, une odeur suffocante a envahi la geôle. L'homme s'est écroulé près de moi, et j'ai bondi tant la puanteur qui dégageait ce corps était insupportable. Pourtant cet homme n'était pas vêtu comme un clochard, ni mal rasé. Cette épouvantable odeur n'était pas celle de la crasse, c'était l'odeur de la peur. Je n'avais jamais senti une telle odeur au cours de ma vie, mais je l'ai reconnue tout de suite. Tout le monde l'aurait identifiée. La puanteur que les hommes sécrètent depuis la nuit des temps, lorsque la terreur s'empare brutalement de leurs glandes, une sueur forte, épaisse, irrespirable. Si je devais un jour tout oublier de ces sinistres heures, je ne conserverais qu'une chose, une seule, l'odeur de la peur. On dit que rien ne sent plus mauvais qu'une colonie de manchots. Si, cet homme. Jour après jour, les portes des cellules se referment.
Jour après jour, la tôle dévore une nouvelle part d'hommes.
Jour après jour, la tôle isole. Elle isole les individus pour les contraindre à accepter la réalité de cette société, une réalité fondée sur 2 principes.
L'exploitation et la domination. Ces principes sont la base des oppositions irréconciliables de cette société. L'opposition entre riches et pauvres, entre chefs et subordonnés, entre ceux qui risquent de tout perdre et ceux qui ont tout à gagner.
Les tribunaux et les prisons n'ont rien à voir avec ce qui est juste ou injuste.
Les tribunaux ne servent qu'à retirer de la société et du conflit social ceux qui brisent les règles de l'ordre en place.
Telle est la fonction des prisons. La prison tente de mastiquer le contenu de son estomac pour le régurgiter ensuite, la conscience tranquille, à la société.
C'est ce qui s'appelle resocialisation. Par ailleurs, elle sert à enterrer et broyer vivants ceux pour qui cela ne marche pas.
Les barreaux ne connaissent pas d'intérieur.
Non seulement parce que la prison joue un rôle essentiel dans la maîtrise des conflits sociaux,
mais surtout parce que sa logique de privation de liberté est la norme dans l'ensemble de la société.
Nous reconnaissons la prison dans le chef au coin de la rue.
Dans tout oppresseur dans la liste interminable d'institutions qui nous accueillent aimablement pour mieux nous détruire. Lorsque la prison cherche à isoler les prisonniers et les conflits sociaux dont ils font partie, une confrontation consiste pour nous à refuser cet isolement.
À construire des solidarités avec les prisonniers qui luttent contre la situation qui leur est faite.
À tenter par tous les moyens qu'on estime opportuns d'ouvrir des brèches dans les murs gris et silencieux qui disent tant sur le monde dans lequel nous vivons.
Cette solidarité ne nous est pas extérieure. Elle fait entièrement partie de la lutte que nous menons contre ce système.
Un centimètre pour la poule, 2 mètres au moins pour l'humain. C'est facile de parquer les vivants qu'on a coffrés. Marianne la sociale traître, au bar au cri pénitence. Pour pas t'être inséré, tu seras incarcéré. Bada boum boum boum, traîne de murs qui s'écroule. Libère les lions qui tournent en rond, tourne ma boule. Les pages névrosées pour les briser, les intégrer ou les bouffer. Va te faire jurer, prison en feu, juge au milieu.
Gris, chêne, barreau, cadavre, CAO. Portail scolaire, frontière de fer, l'idée qu'on défie barbelé. Tu veux des papiers, prouve que t'aimes pas te faire bombarder ou va te faire enfermer. Que tu voles un artichaut ou que tu voles un peu trop haut, ils te tailleront les ailes et te pigeront dans une volière. Papa, patron, mari, patrie, prison, psychiatrie, c'est le travail ou la tenaille. Toutes les animales en cavale ou en cage, les plus grandes barrières sont celles de leurs œillères.
Puissions l'aide l'entraide.
It's so strange.
Vous êtes bien installé?
C'est parti pour le décollage.
1, 2, 3,
4. Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de Variation.
Jean-Marc Rouillant, Le Tricard, chronique du dehors d'un interdit de séjour.
Un extrait de la pensée de Michel Foucault dans Surveiller, punir.
Une lettre d'Alexia, incarcérée à la maison d'arrêt pour femmes de Nice, parue dans le journal L'Envolée.
Johnny Cash, depuis la prison de Saint-Quentin, avec Folsom Prison Blues.
Une lettre de George Jackson à Angela Davis, parue dans Les Frères de Soledad, aux éditions Sileps.
Incarcération par le ZAD Social Rap de Notre-Dame-des-Landes.
Un extrait du spectacle Pisser dans l'herbe, écrit à partir des récits de Christine Ribailly.
Mémoire d'un anarchiste en prison d'Alexander Berkman, compagnon de vie d'Emma Goldman.
Mère d'Avauban, de Léo Ferré.
Milo l'incorrigible. Parcours carcéral d'un jeune insoumis à la belle époque du collectif L'Escapade aux éditions Niette.
Le poème La chasse à l'enfant de Jacques Prévert, interprété par Marianne Oswald.
Une autre lettre de George Jackson.
La chanson de Passy, Le maton me guette.
Le récit autobiographique de René Frény dans Tu tomberas avec la nuit.
Un extrait de Brique par brique, Se battre contre la prison et son monde, Tumulte édition.
De nouveau, incarcération par le ZAD Social Rap de Notre-Dame-des-Landes.
Et pour introduire le prochain thème de l'émission,
l'école,
un dernier extrait de Brique par brique.
Et rendez-vous dimanche pour la rediffusion.
Et le 16 janvier pour la prochaine émission, Variation.
Variation.
Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de Variation.
Ça me fait penser à mon enfance. Et je crois me souvenir qu'étant enfant, on n'était pas comme ça. Qu'il y avait quelque chose à l'intérieur et que ce quelque chose sortait quand ça voulait sortir. Je me mets à penser à l'éducation et je me heurte au constat que l'école a aussi constitué une grande partie de mon enfance. Mais quelle est l'essence de ce qu'ils ont essayé de m'apprendre ? L'école se dit être l'endroit où l'on offre aux jeunes une chance de se développer. Dans le même souffle, on dit en général qu'à l'école, les enfants sont préparés pour la vie future. Ces deux choses n'ont pourtant pas le même sens. Dans la plupart des éducations, et certainement dans la plupart des écoles, c'est surtout cette dernière chose qui est centrale. Préparer les enfants au monde qui les attend. On prête de l'attention au développement, dans la mesure où cela est nécessaire à la préparation de la vie future. Et cela va dans un certain sens. L'autorité et la répression, on pourrait aussi dire la punition, sont des grands mots, mais ils y trouvent toute leur importance. C'est à l'école qu'on nous apprend qu'il y a des règles, et ce qui se passe quand on ne les respecte pas. Dès le premier jour, il est clair comme de l'eau de roche que ce ne sera pas toi qui décidera ce que tu vas faire de tes journées, mais ceux qui se trouvent au-dessus de toi et à qui tu dois la politesse. Dans tout ça, c'est la vie future qui est centrale. À l'école, on doit apprendre à travailler afin de se faire une place dans la société. Et plus tard, il faudra travailler encore plus en suivant la logique qui régnait déjà à l'école afin de garder cette place. À l'école, tout est fait pour enfoncer cette logique dans notre tête, pour qu'elle s'enracine, pour qu'elle devienne notre propre logique. Cette logique s'immisce au plus profond de nous et y bâtit consciencieusement des murs. Quand ça marche, ces murs restreignent alors l'horizon de tes possibilités, de tes rêves et de tes désirs. Ceux-ci ne peuvent plus que se développer au sein de ces murs, au sein de la logique qui régnait à l'école, celle de l'autorité et de la punition, du travail, de la concurrence, du rien pour rien et du jamais tout. Si on y jette un œil, tous les jours, on voit des gens qui escaladent ces murs, de manière consciente ou pas. À ce moment, la prison apparaît et les murs deviennent palpables. Le système carcéral cherche à créer la peur. Il veut rappeler la situation dans laquelle les gens se retrouveront si jamais ils pensent à s'émanciper des normes imposées. Mais la prison est évidemment beaucoup plus qu'une image dans la tête servant à insuffler la crainte. Pour beaucoup, elle est une réalité quotidienne. La prison sert en effet à pouvoir à un moment donné extraire quelqu'un de sa vie et l'isoler. Ce qui saute aux yeux dans la plaidoirie de la plupart de ses défenseurs, c'est qu'il y a un nombre terrifiant de ressemblances entre le dessin d'une prison et celui d'une école. Même si les pratiques appliquées diffèrent, le prisonnier a par exemple déjà eu sa chance et la prison est là pour le punir, l'écarter totalement et essayer de briser toute trace de rébellion présente face aux règles de la société. Mais les règles, comment fonctionnent-elles? Et le criminel, c'est qui? Il est interdit de tuer, sauf si tu es flic. Il est interdit de voler, alors que les riches volent des pauvres partout dans le monde au nom du capitalisme. Il est interdit de faire usage de violence, alors que nous sommes en permanence confrontés à la violence de l'État.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
Variation.
Variation.
Poésie,
mise en bouche.
La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche. Du politique qu'on éclabousse.
Du politique qu'on éclabousse. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.